Je voulais vous remercier pour l'émission d'hier qui était vraiment magnifique. C'était très frais, c'était encourageant. On dit beaucoup de choses sur les jeunes et là, on se rend compte qu'ils se battent. Et s'il y a eu ce résultat au référendum qui nous donne quand même un petit peu d'espoir, ben c'est aussi grâce à ces jeunes qui se mobilisent.
Mais je vous appelle parce que je trouve moi aussi le très très scandaleux le fait qu'on ait arrêté les lycéens et qu'en plus on les juge dans les conditions où on le fait, alors que je crois me souvenir quand même que, d'accord, ce sont des fidèles, les agriculteurs de la FNSEA qui ont cassé quand même beaucoup de choses, eux n'ont rien eu du tout. Il me semble que c'est bien ça. Donc moi je suis quand même très très scandalisée qu'il y a des gamins, on joue des tours pareils, on les met en garde à vue et tout, je trouve que c'est horrible. Eh ben merci, et puis bon courage, continuez.
Salut, c'est Isabelle du Gers. L'émission sur les lycéens qui passe aujourd'hui à la caisse, car ils se sont opposés à la loi Fillon, ça m'a donné du baume au cœur. Si, je vous assure. Oui, parce que moi je suis une prof qui essaie de faire au mieux son boulot pour ses élèves, puis pour elle-même, et qui milite aussi pour toute la profession enseignante. Tout ça, c'est pas facile. Parce que dans l'éducation aujourd'hui, il faut de la rentabilité. Dans nos établissements, on impose les heures sup et on ferme les postes. On parle de vendre les actions éducatives, mais les moyens, il n'y en a pas. On nous demande de former le futur citoyen, mais les classes sont de plus en plus chargées, les options de plus en plus réduites, et bien sûr, c'est toujours les mêmes enfants qui en pâtissent. Donc moi, je le dis, je le dénonce, je me bats même. Et comme les lycéens, moi aussi, je passe à la caisse depuis quelque temps. Alors, j'en avais marre de passer à la caisse, ras-le-bol. J'ai donc pensé rentrer dans le rang. J'ai donc pensé me taire et faire avec. Mais non, vraiment, ils ont raison, ces lycéens. Il faut continuer à défendre ce qu'on croit juste et ce qu'on sait légitime. Ah, ça va beaucoup mieux maintenant. Allez, courage et puis bisous à tous.
Grégory de Boulogne, salut Daniel, voilà ce qui m'amène, je viens d'entendre 5 mois avec sursis pour un crachat, heureusement que Fabien Barthès n'est pas étudiant, allez, à bientôt et continue pour ce que tu fais.
Dans les deux cas, il s'agit d'un crachat, dans les deux cas, il est adressé à un personnel d'autorité, un coup c'est un arbitre, un coup c'est un policier. Mais bon, là, ça s'arrête la similitude. Quelle sanction pour cet acte inacceptable? Dans le premier cas, une commission de discipline. Dans le deuxième cas, un tribunal. Dans le premier cas, une suspension d'activité, qui sera réductible si l'auteur a un bon comportement. Dans le deuxième cas, 5 mois de prison ferme, 500 euros d'amende, non réparable. Dans le premier cas, on se lamente sur les conséquences dramatiques de la sanction. Dans le deuxième cas, qui s'inquiète des conséquences? Comment disait déjà La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable? Allez, salut.
J'ai un message pour Pauline, là, si vous pouvez lui faire parvenir. Je voulais lui dire, continue comme ça, Pauline. T'es une fille fantastique. J'espère que tu tourneras jamais comme Cohn-Bendit. Je voulais te dire aussi que s'il y a un moyen, je ne sais pas quel qu'il soit, de vous soutenir, toi et tes potes, j'y participerai. Je vous soutiendrai jusqu'au bout. Et je voulais te raconter ça encore. Il y a un type qui a dit, je ne sais plus qui, quand on écrit des poésies à 16 ans, c'est parce qu'on a 16 ans. Quand on en écrit à 40, c'est parce qu'on est poète. Mais je crois que pour la révolte, c'est pareil. Quand on se révolte à 18 ans, t'as toujours des gens qui te disent « Ah, mais c'est parce que t'as 18 ans » ou comme tu as dit « Vous êtes des moutons, vous suivez le mouvement ». Eh bien, je vais te dire, Pauline, j'ai 35 ans de plus que toi et je pense encore comme toi. Voilà, je t'embrasse.
Oui, bonjour Daniel, c'est Philippe, ou plutôt devrais-je dire l'encarté de d'attaque, LCR, Parti communiste et autres gauchos réunis. Les branleurs de lycéens n'ont eu que ce qu'ils méritaient et encore ils n'ont pas suffisamment payé. Ça leur apprendra à foutre la merde dans le pays. Et puis d'autre part, moi j'ai voté non, mais j'ai pas voté non contre la contre la soi-disant constitution libérale. J'ai voté non parce que cette constitution était justement antilibérale. Donc de toute façon, moins il y aura de constitution, plus on pourra faire ce qu'il y a à faire dans ce pays et ailleurs pour lutter contre le collectivisme que tu représentes avec beaucoup d'efficacité. Salut Daniel.
Eh bien, la devise du nouveau gouvernement, chose promise, chôme due. Oui, je sais, mais ça fait aussi du bien. Amitié à tous.
Voilà, amis du populisme, de la xénophobie et du collectivisme, bonjour. Voilà quelques-uns des messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Notamment, pas mal de messages suite à l'émission d'hier, le reportage d'Olivia Gesbert sur les lycéens, sur le printemps lycéen, et sur les condamnations qui frappent aujourd'hui certains de ces lycéens. Effectivement, des condamnations très lourdes. Je vous renvoie au communiqué de la Ligue des droits de l'homme, par exemple, et un certain nombre d'articles sur sur ces jugements. Aujourd'hui, on peut dire quand même qu'au moins le nom de dimanche, du 29, aura un mérite pour ceux qui s'intéressent à la France, à la société française. C'est que si l'on regarde notre hexagone, si on regarde la carte du nom, on observe que cette carte recouvre exactement la carte du chômage. Et voilà sans aucun doute pourquoi la nouvelle impulsion voulue par le président de la République sera la lutte contre le chômage. Et là, cette fois-ci, le chômage n'en a plus pour longtemps, pour 100 jours, nous dit-on. Donc, on est assez tranquille. Mais là-bas, si j'y suis, et veut se rendre utile. Vous savez ce que c'est, nous, dans le service public, on veut se rendre utile. Et on se dit que peut-être on pourrait concourir à aider ceux qui vont lutter aussi vaillamment contre le chômage, à gonfler un peu leur dossier, à mettre les choses un petit peu en perspective. Aussi va-t-on réentendre une émission que nous avions faite autour d'un film de Gilles Balbastre sur le chômage et sur l'histoire du chômage. Le chômage a une histoire. Et donc voilà, aujourd'hui, on retrouve cette émission avec un certain nombre de politologues, de sociologues et de spécialistes, parce que évidemment, là-bas, si j'y suis, a recours, comme tout le monde, à des spécialistes. Et alors peut-être que depuis... C'est vous qui jugerez. Peut-être que depuis tout ce qu'on a essayé de dire dans ce que Balbastre a essayé de dire et ce que nous avons essayé de dire aussi, eh ben, peut-être que le message est arrivé. Peut-être que quelqu'un a vendu la mèche et dit les choses beaucoup plus, simplement et beaucoup plus succinctement que nous. C'était le 27 mai dernier, à 12h59, sur France Info. Écoutez bien.
La bourse. François Chevalier, vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Il faut savoir que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Parce que le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. C'est le plein emploi. Or, on est loin du plein emploi.
François Chevalier, merci. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez VP Finance.
Voilà. Là, le pire ennemi des profits, c'est le plein emploi. Alors, le contraire est vrai aussi. Le plein emploi est le pire ennemi du profit. Peut-être que enfin, le message est arrivé et que Monsieur François Chevalier, stratégiste chez VP Finance, qui s'exprimait sur France Info ce jour-là, deux jours avant le 29 mai, eh bien, peut nous fournir le titre de l'émission du jour. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Alors, je viens d'entendre le nouveau gouvernement là. Je sais pas, je suis vachement déçue, c'est Véronique de Blaye, parce que je me dis que il n'y a pas Alain Juppé, et c'est un peu, puisque c'est à la mode, comme si je faisais une cousinade, et puis il n'y aurait pas mon cousin Jean-François ou mon frère Franck, et je serais triste, quoi. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas poussé le bouchon jusque-là. Au revoir.
Chirac, c'est un type sympa. On l'a toujours dit et je ne vois pas pourquoi il est si injustement calomnié aujourd'hui, et notamment sur cette antenne. Je pense qu'il y a une vraie incompréhension. Je m'explique. Après que les électeurs aient voté non à sa conception de l'Europe, et après que lui-même ait déclaré avoir écouté et compris les Français, M. Chirac a choisi un Premier ministre ancien diplomate, parlant plusieurs langues, les principales langues européennes et d'autres encore. Qualification dont on ne voit pas l'utilité pour l'objectif qu'il s'est fixé, lutter contre le chômage en France. Alors je pose cette question toute simple, mais qui devrait expliquer ce malentendu et réconcilier M. Chirac avec la France profonde. Quelle est la durée de vie moyenne d'un sonotone? Et s'est-on au moins préoccupé de savoir à l'Élysée si celui de M. Chirac était bien conforme aux normes européennes? Pour redevenir sérieux, juste un instant, il y a une petite chose qui me préoccupe vraiment. De Villepin, numéro 1 du gouvernement, une égérie de Napoléon, numéro 2, Sarkozy, un vrai petit Bonaparte. L'objectif du gouvernement, lutter contre le chômage, 100 jours qu'ils se sont donnés. Pourvu qu'il ne s'inspire pas jusqu'à l'ultime de notre ancien empereur, car il en avait une drôle de méthode, lui, pour résoudre le chômage. En France et dans toute l'Europe, d'ailleurs. Philippe de Bretagne, d'où, quand le temps est clair, comme en ce moment, on aperçoit Waterloo.
Dans l'émission d'hier, j'apprends qu'un crachat lycéen vaut 5 mois de prison avec sursis et 500 euros. Combien coûte, à ton avis, l'emploi par un patron de 4 rémistos noirs, coût évalué par un procureur de la République en séance d'un tribunal correctionnel récemment? 1000 euros, pas un jour de prison, même avec sursis, et pas de publication de jugement non plus. Chercher l'erreur, serait-elle politique peut-être? En tout cas, ça ne fait pas honneur à la justice. Faire sortir de prison les futurs lycéens incarcérés pour fait de grève contre une réforme libérale devra être un objectif solidaire. Merci de donner la parole aux interdits d'opinion. Ciao.
Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre d'Angoulême. Juste un petit mot pour vous signaler que ce soir, nous organisons à Angoulême un rassemblement devant le tribunal, rassemblement en solidarité avec les lycéens mis en cause par la justice et évidemment solidarité avec les salariés du centre de tri de Bordeaux. Donc ce soir, 18h, devant le tribunal d'Angoulême. Merci, salut.
Le droit chemin. À chaque kilomètre, chaque année, des vieillards au front borné indiquent aux enfants la route d'un geste de ciment armé. Jacques Prévert.
Non, 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 rien de rien. Je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis, le chômage a une histoire.
Flight number 2, arriving from New York.
En ce mois de janvier 1967, le premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le premier ministre s'inquiète.
Nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Si un jour on atteint les 500 000 chômeurs en France, ce sera la révolution. Ainsi parlait en janvier 1967 Georges Pompidou, alors que la France en janvier 1967 ne comptait que 250 000 chômeurs.
Attention, moi je suis chômeur, mais l'État me paye pour résoudre la crise. Et il me verse une allocation, et moi je cherche du travail. Et j'en trouve pas. Et puis si j'en trouve, je lui dis pas. Et dès que je reçois l'allocation, tous les mois, je vais m'acheter Modes et Travaux. Parce que dans Modes et Travaux, il y a des patrons en papier de soie. Il n'y a rien de plus agréable que de se torcher le cul avec un patron quand on est chômeur.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux,
qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Alors j'en viens à ce qui inaugure cette histoire donc du chômage, Gilles Balbastre, c'est cette déclaration de Georges Pompidou qui en 67 utilise le mot libéralisme, hein, dans votre, c'est le début du film quasiment. Il inaugure l'instabilité.
Alors effectivement il y a deux déclarations en fait, ce sont deux interviews. Alors pourquoi on commence en 67? Il fallait bien commencer par quelque chose. C'est pas que l'histoire commence là, hein. Enfin, faut pas non plus exagérer, l'histoire du chômage commence pas en 67. Non, il y a deux choses qui nous ont paru intéressantes. D'abord c'est la création de NPE par un jeune secrétaire d'État à l'emploi qui s'appelle Jacques Chirac à l'époque. Et la deuxième chose c'est effectivement qu'on a des entretiens de Pompidou, deux entretiens au fond. Un premier en janvier 67 qui donne à la télévision, où il dit à partir de maintenant l'emploi va devenir un problème permanent. Non, alors ça fait un peu visionnaire comme ça, mais au fond ça s'explique parce qu'effectivement il va avoir l'ouverture du marché commun en 68 et qui va libérer les frontières. Et le deuxième interview justement arrive quelques mois plus tard, c'est en juillet 67, et il dit notamment aux patrons, aux commerçants, etc., aux artisans, vous avez vécu dans des frontières inadmissibles, dans un protectionnisme inadmissible, il va falloir avoir peur. À partir de maintenant, vous allez vivre dans le risque permanent, tout simplement parce qu'effectivement, il va falloir ouvrir les frontières. Et derrière, pointe déjà une des notions libérales importantes, c'est parce que, au fond, le citoyen français, qui est un client avant tout, hein, puisque le libéralisme se définit, il faut satisfaire le client, c'est le client roi.
Ben oui.
Même on le dit plus roi que l'actionnaire, et ouais, on sait que c'est pas vrai, mais il faut satisfaire ce client. Et ce client, il a acheté les produits chers, au fond, parce qu'on était dans un protectionnisme inadmissible, dans une économie étatisée, au fond, entre guillemets, hein, régulée par l'État. Et maintenant, il va pouvoir, au fond, payer son produit moins cher grâce à l'ouverture des frontières. Alors, au fond, ce qui se dit pas et ce qui va être formidable, c'est que ce client roi, avant tout, il est un salarié et qu'on va lui rogner tous ses acquis et beaucoup de son salaire pour qu'il devienne un client roi, c'est-à-dire, au fond, un client qui a plus beaucoup d'argent et beaucoup d'acquis pour pouvoir consommer. Il va notamment s'endetter, en tout cas les classes les plus basses, mais ça, on le dira pas. On le dira jamais comme ça. On dira pas que le fameux client roi pour qui on fait tout, ben, il est avant tout un salarié, parce que 80 ou 85% des gens sont des salariés. Et que ce sont ses acquis, cette liberté d'être un salarié aussi, hélas, parfois, même s'il a le lien de subordination qu'il attache à son patron, d'avoir quelques acquis, d'avoir quelques droits, d'avoir quelques protections que lui a donné la mise en place d'un État-providence d'après-guerre. Et que, au fond, à ce moment-là, se joue déjà une notion très libérale. Pompidou le dit, hein, il dit, et si c'est pas ça la notion phare du libéralisme, ça ne sert à rien. Et au fond, bien avant cette idée de mondialisation, ben, c'est l'ouverture des frontières autour de des années 60, fin 60, je pense, qui va mettre en place certainement aussi la montée de la compétitivité du coût, la montée de réduire les coûts pour vendre soi-disant moins cher. Et au fond,
Gilles, là, on est en 1967.
C'est ça.
Pompidou s'adresse à une France dans laquelle la classe ouvrière, on dit le mot classe ouvrière, hein, c'est pas un mot honteux, c'est pas un mot pornographique, c'est pas un mot ringard à l'époque, où la classe ouvrière est puissante. Il y a des syndicats puissants, il y a des partis de gauche puissants. On a déjà l'amorce d'une idée pour la classe que Pompidou représente, au nom de laquelle il parle, d'une peur, puisque vous dites que la peur sociale va changer de camp autour de ces 35 années. Est-ce que Pompidou incarne une peur?
Oui, ben si on se réfère au cas de Sochaux, par exemple,
c'est Michel Pialou qui parle.
Cette usine que nous connaissons bien, dans ces années-là, le groupe ouvrier, on dit effectivement sur place la classe ouvrière, et c'est une expression à laquelle tout le monde recourt. Le groupe ouvrier apparaît puissant. Il apparaît surtout puissant parce qu'il est organisé autour des ouvriers professionnels. Ces ouvriers professionnels ont une conscience. ils ont des schèmes politiques en tête, ils ont des références en tête, ils agrègent autour d'eux d'autres groupes, et notamment les nouveaux ouvriers qui viennent d'arriver dans les années 60 de la campagne ou de pays lointains, l'agrégation se fait sans problème. Ils imposent leur logique, et c'est eux qui donnent l'impulsion. Au fond, la question forte, c'est celle des acquis qu'ils doivent obtenir, et ils pensent que ils sont l'avant-garde, et les autres progressivement acquerront les mêmes choses, obtiendront les mêmes droits, etc. Il y a des locomotives, il y a Renault, bien sûr, qui est le phare de la classe ouvrière, mais Peugeot aussi joue un grand rôle. Et cette puissance, bon, elle va se manifester bon, dans le conflit de 68, dans les événements de 68, c'est quand même la grande grève ouvrière, ça, 10 millions de salariés sont dans le coup, et parmi eux, les ouvriers sont le groupe largement dominant.
La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité moins une voix.
Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications.
Augmentation générale des salaires.
Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle.
C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, les classes dominantes vont avoir peur. Bon, dans les années 68-74 sont des années très très importantes. On le voit bien dans l'automobile. Des choses importantes ont été obtenues, des concessions en 68 au niveau salaire, etc. Le droit d'avoir des délégués syndicaux dans l'entreprise, les acquis sont tout à fait importants. Mais il y a aussi un climat de combativité qui monte et qui va se traduire par de nombreuses grèves, de nombreux conflits et une forme de peur qui va exister dans la classe dominante à partir de ce moment-là.
Serge Halimi, sur la peur de la classe possédante.
Oui, il faut voir que cette puissance ouvrière, c'est pas un phénomène qu'on observe seulement en France. Évidemment, en France, il y a eu les grèves de mai 68, les plus importantes de l'histoire sociale, mais il y a eu aussi à peu près au même moment l'automne chaud italien, c'est 69. Il va y avoir quelques années plus tard la grève des mineurs au Royaume-Uni qui va aboutir à la chute d'un gouvernement conservateur qui est en quelque sorte victime d'un conflit social qu'il perd. Il y a des grèves aux États-Unis aussi à l'époque, donc dans l'ensemble du monde occidental il y a une montée de la contestation sociale, et ça se traduit sur le plan idéologique. Souvenons-nous que François Mitterrand, quand il prend le contrôle du Parti Socialiste à Épinay en 1971, dit, et je crois que je le cite presque textuellement, « Qui ne veut pas la rupture avec le capitalisme, je le dis, ne peut pas être membre du Parti Socialiste. » Même en 1980, un an avant d'être élu président de la République, il invoquera Lénine. Et il dira « Je crois comme Lénine à la conquête du pouvoir d'État ». Quand Giscard est élu président en 1974, peu après, il va aller à Moscou et déposer une gerbe sur le mausolée de Lénine.
Et voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait ? Qu'a-t-on fait pour le peuple ? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs ? Qu'a-t-on fait pour les paysans ? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers ? Qu'a-t-on fait pour les commerçants ? Qu'a-t-on fait pour les artisans ? Qu'a-t-on fait pour les cadres ? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales ? Alors je vois qu'on m'a compris.
Donc vous voyez, il y a quand même un contexte idéologique qui accompagne cette montée sociale, pas seulement en France, mais à l'étranger, dont on va observer le retournement complet dans les années 80.
Alors, ce sont ces années-là aussi, par exemple, où il va avoir... Parce que le patronat a peur aussi des grandes conquêtes, des conquêtes importantes, hein, comme après-guerre, vous avez la création du SMIC, la quatrième semaine de congés payés en 69.
On parle de quelle date, là, Gilles ?
les 4 semaines de congés payés 69, la création du SMIC 1970, la mensualisation des ouvriers 1970, l'accord sur les indemnités journalières de maternité 70, l'accord sur la formation professionnelle en 70 avec Jacques Delors. Il y a énormément de discussions entre le patronat. Et alors, à côté de ça, vous avez... Et ça calme pas les ouvriers. Ça les calme pas pour autant. Il y a des grèves importantes. Il y a la grève des joints français, du joint français en Bretagne, qui va durer plusieurs semaines. Il y a plusieurs fois des grèves, notamment à Renault, sur la condition des OS. Le taux d'absentéisme augmente à Renault de 6 à 11%. On ne remet jamais, c'est une période où on n'a jamais autant remis en cause, l'aliénation, et l'exploitation du travail, notamment du travail non qualifié, peu qualifié. Il y a une vraie remise en cause aussi du travail. Il y a un très beau document, Le sang des autres, que j'ai pas pu mettre, et Michel et Stéphane le connaissent, où il y a un monologue qui dure au moins 2 ou 3 minutes d'un ouvrier qui parle de comment le travail posté à la chaîne lui détruit les mains, et un texte qui est un texte littéraire où il parle qu'il ne peut plus lire, plus tourner les pages de son livre, où il ne peut plus toucher le corps de sa copine. Il y a une remise en cause comme ça très profonde, et au fond, et ça se passe pas qu'en France, ça se passe partout, et effectivement il est grand temps de les calmer.
Ouais, enfoiré, ouais. Parce que tout le monde gueule, on dit ouais, il y a déjà 3 millions de personnes qui réclament du travail. C'est pas vrai. De l'argent leur suffirait.
Ces gens qui courent au grand galop, en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du
S'il y avait 500 000 chômeurs, ce serait la révolution. Ainsi parlait Georges Pompidou dans les années 60. Et ben effectivement, ce fut une révolution conservatrice, la révolution néolibérale. Le film de Gilles Balbastre, Le chômage a une histoire, raconte ça, raconte ce retournement, raconte cette trahison aussi de la part des intellectuels, raconte aussi l'imposture médiatique à travers les acteurs, c'est-à-dire les salariés, les syndicalistes, les patrons, les médias, tous les protagonistes de cette histoire. Et pour parler du film de Gilles Balbastre, on est avec Serge Halimi, avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, qui sont tous deux sociologues et qui ont publié un livre tout à fait remarquable qui s'appelle Retour sur la condition ouvrière chez Fayard. Qu'on évoque Gilles Balbastre, parce que tout ce qu'on dit sur cette époque post 68, avec ses avancées, ses exigences, la remise en question, et ça nos amis sociologues le savent, du travail lui-même. C'est là que l'an 01, par exemple, de GB, qui dit on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Il y a toute une tendance pour dire perdre sa vie à la gagner. La remise en question du boulot lui-même, du travail lui-même. Ça, c'est une expression de cette époque qui semble tout à fait saugrenue aujourd'hui. On veut en avoir du boulot. Il n'est pas question de dire on veut pas travailler aujourd'hui. Et ça se traduit aussi à la télé. Nous revoilà à la télé. Dans une émission dont vous donnez un extrait qui s'appelle Armes égales, c'est en octobre 70. Et c'est formidable parce que dans notre mémoire aujourd'hui, puisque Stéphane Beau dit qu'il faut bien penser ce qu'était le travail à l'époque, évidemment, par rapport à la précarité d'aujourd'hui, etc. Mais la télé de l'époque, on imagine un truc presque stalinien. Et en fait, à 20h30, à Armes égales, il y a François Sérac et Georges Segui, en prime time, on disait pas encore prime time à l'époque, qui s'affrontent avec des documents extraordinaires.
Oui, alors en fait, c'est la télé des années gaulliennes, c'est Pompidou, etc. Et effectivement, c'est une télé qui est soumise à la censure. C'est connu pour ça, c'est une télé qui est soumise à la censure. Et au fond, à 20h30, parce que la classe ouvrière, et au fond, on peut dire les salariés aussi, parce que faut pas résumer qu'à la classe ouvrière, les salariés, parce que dedans, il y a les employés, il y a aussi, on disait tout à l'heure, il y a eu des grosses grèves, par exemple, des employés de banque. Ils envahissent la bourse en chantant international. Je veux dire, hein, ça fait quand même, on voit moins bien maintenant des employés de banque se sentir international en investissant à la bourse. Et au fond, ça se traduit à la télévision. Ils sont obligés de passer ça. Et donc, il y a un débat, effectivement. Et cette émission a la particularité de faire par les invités un film de 15 à 20 minutes. Donc là, Serac fera son film et Segui fait son film. Et c'est un film fait par un réalisateur communiste de l'RTF, du reste. Très beau, hein, en noir et blanc, un genre de plasticité à la russe. Hein, c'est magnifique, on dirait un ballet sur des sidérurgistes qui enfournent un four. Enfin, c'est quasiment un film de propagande aussi. Et il y a des phrases d'une violence. Hein, c'est dit carrément à qui appartiennent les usines, à De Wendel, De Rocher, etc. La deuxième question, c'est qui
profite.
Non, pas qui profite tout de suite. Qui fait les richesses? Hein, ce sont les travailleurs, les salariés, nanana. Et qui profite de ces richesses? Ce sont une poignée de possédants. Et le film se termine.
De profiteurs.
Et ça se termine par la phrase de Marx. Les travailleurs n'ont pas besoin des capitalistes, mais les capitalistes ont besoin des travailleurs. Et à un moment dans le débat, il y a ces Guy qui dit entente, mais il n'y a pas d'entente possible. On n'a pas les mêmes projets communs. Mais en attendant, faut discuter. En attendant que tout change.
Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce « À armes égales » d'octobre 70. Le film de la CGT, programmé à 20h30, juste avant le débat entre François Serac et Georges Segui, résume à lui seul l'état d'esprit de l'époque.
Première question. À qui appartiennent les usines ? De Wendel, le baron Impin, le baron Rothschild, Dassault, Jean Prouvaud. Deuxième question. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse? Les travailleurs. Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes.
S'il fallait une figure du dédain et du mépris, il faudrait garder la tête que fait François Serac en regardant Segui.
Mais bien sûr. Mais c'est pas, oui, mais en même temps, la peur aussi. Ouais. Parce que il y a un autre arme égale où il y a Eugène Descamps, le patron de la CFDT, et alors une autre CFDT que celle de maintenant, et Antoine Riboud, le patron de Mitterrand, le patron de Schumberger, le patron un peu de gauche, soi-disant, entre guillemets. Et je peux vous dire que c'est encore plus radical que, je l'ai pas montré ça, hein, mais c'est encore plus radical que le film de la CGT. On remet en cause la société de consommation, on remet en cause tout, à tel point que Alain Duhamel, le fameux Alain Duhamel là, qui existe encore, pose un moment à Jeanne Descamps, mais tout ça, ça va se faire dans une société révolutionnaire. C'est magnifique d'entendre ça dans la bouche d'Alain Duhamel. Il est obligé de parler de société socialiste, révolutionnaire, autogestionnaire. Vous vous rendez compte ? J'ai pas pu le passer, c'est dommage, c'était savoureux, je veux dire. Ça, je me permets de vous le dire à votre émission. 10 ans après, il dit plus la même chose de père Duhamel, hein, à l'heure de vérité. Là, il pérore, et c'est fini. Il peut tendre le plat au patron.
Serge Halimi.
Juste une précision sur ces émissions. Vous dites qu'elles passent en prime time, mais elles passent aussi sur une télévision française où il n'y a à l'époque que 2 chaînes.
Ouais.
Ça veut dire que ce sont c'est vraiment des masses, des millions de personnes qui regardent cette émission. Ils ne regardent pas le câble, ils ne regardent pas, Canal+, ils regardent ça. C'est vraiment la grande réunion de la famille, du groupe le soir. C'est pour regarder ce genre de débat et pour voir ce genre de film.
Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent.
Comme un problème permanent.
Comme un problème permanent.
Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelquefois 800, 900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes.
En permanence, on devra veiller.
Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants.
À ce que l'emploi soit assuré aux Français.
Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Nous serons donc en risque permanent.
En octobre 1975, Gilles Balbastre, on passe le cap les 1 million de chômeurs. Et là, il y a des extraits d'un documentaire tout à fait saisissant, où notamment on voit un cadre qui explique ce que c'est que le chômage, son chômage.
Bon, alors je me mets à mon bureau. Je prends mon cahier, qui n'est pas mon premier cahier malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier.
Dans un deuxième document intimiste, les dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage, le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi.
Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier avec ce cahier?
Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je découpe les annonces auxquelles j'écris et je les colle avec les réponses qui me sont données.
Ça représente des réponses à combien d'annonces?
Écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, 250 réponses. Dans
combien?
240 négatives. Pour quelle raison? Ça, je n'en sais absolument rien.
240 négatives sur 260.
Négatives, oui. On ne dit pas, on dit monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit monsieur, votre profil ne correspond pas.
Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ».
On voit bien la période de 75-80, c'est une période de transition finalement. Et notamment, je pense qu'il y a effectivement une pédagogie du chômage. Il faut montrer que ça peut atteindre même un cadre. Ça atteint bien sûr les ouvriers, mais aussi même un cadre.
Il y a des
journalistes comme de Closette qui expliquent au bon peuple que ce qu'il faut savoir du chômage, de la réalité économique. Mais il me semble qu'effectivement, la question, c'est un peu le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on sent qu'à l'époque, le seuil de tolérance du chômage est bas. Quoi. 1 million, c'est déjà beaucoup, c'est un seuil. Et donc, parce qu'il y a ce rapport de force dans la société qui fait qu'on a encore peur de la classe ouvrière, du monde des salariés, qui est syndiqué, qui sait se défendre, qui est actif au niveau des grèves, etc. Tout ça, effectivement, a basculé, laminé par la vague de chômage. C'est pour ça que cette période 75-80 est très intéressante. Oui. On le voit aussi dans les entretiens avec les syndicalistes. Il y a encore un moment où il y a encore les bénéfices, si on peut dire, d'après 68, qui sont encore là.
Et la preuve, c'est qu'en termes d'économie, on est encore dans une économie très assistée, très encadrée par l'État. Chirac, quand il arrive en 74, fait un vrai plan de relance. Il embauche à peu près 40 000 fonctionnaires, notamment des lignards, on rattrape le retard à France Télécom, enfin à l'époque on dit au PTT, de notre retard au niveau du téléphone. On embauche 40 000 fonctionnaires. Chirac embauche 40 000 fonctionnaires. On augmente les prestations sociales, on fait un plan de relance, bon, qui n'est pas autant, parce qu'il n'y a pas tout ce côté nationalisation, mais qui ressemble par certains aspects à celui de Monroy en 81.
Il est même plus important.
Mais dans certains aspects, effectivement. Ouais. Mais il n'y a pas les nationalisations, il n'y a pas tout ça à côté, bien sûr, ça on ne peut pas. Mais au fond, c'est ça qu'il faut entendre, c'est que même pour la droite, dans ces années-là, une économie libérale de marché est encore aberrante. Ce sont des mots aberrants. On ne laisse pas le marché tout faire.
On n'a pas oublié ici le programme du candidat François Mitterrand qui, en 1981, s'engageait devant les Lorrains à ne plus licencier dans la sidérurgie. À Longwy, il ne fait plus bon être député socialiste.
Nous, ouvriers, nous vous démissionnons. Nous vous démissionnons. Nous ne vous connaissons plus.
La gauche, elle a été élue par nous, et puis c'est de la trahison, pure et simple. Hein. Nous, on attendait autre chose. On a voulu la nationalisation, on s'est battu pour ça. Ça changeait quoi? Ça n'a rien changé du tout.
Parce que moi, je travaille dans une usine où que la grève dépend directement du stock. C'est pas pour dire du mal, hein, c'est l'histoire de France qu'on raconte. Vous avez par exemple Lip, là, Boussac, là, Manu France. Ne m'appelez plus Manu France. La France est mal laissée tomber et un Zorro qui va arriver. Parce que le maire de Saint-Étienne, où il y a Manu France, c'est un maire communiste. Il savait pas pourquoi il avait été élu aussi facilement. Eh ben, il vient de comprendre, là.
Pour des sociologues comme Stéphane Beau et Michel Pialoux qui sont avec nous, qui sont les auteurs de Retour sur la condition ouvrière, un livre qui a fait date chez Fayard, eh bien, la peur sociale a changé de camp au cours de ces 35 années d'histoire du chômage. N'y a-t-il là-dedans que de la fatalité, que des forces conjoncturel, structurel, inévitable, ou bien pouvions-nous agir différemment ? Pouvons-nous aujourd'hui agir différemment, nous, c'est-à-dire les politiques, les syndicalistes, les salariés, enfin toute une société, pouvons-nous reprendre les choses en main, comme on disait jadis ? Sur quelle partie pouvons-nous agir ? C'est des questions qui ont l'air qui avaient l'air saugrenues au cours des années 80 et qui aujourd'hui deviennent un petit peu plus sensibles et un peu plus importantes, il faut bien le dire. Donc on est avec Stéphane Beau et Michel Pialoux, je l'ai déjà dit, avec Gilles Balbastre et avec Serge Halimi du Monde Diplomatique. Comment l'idéologie libérale s'est-elle progressivement installée, imposée, justement comme inéluctable, comme moderne? On parle de notre hexagone, mais cette révolution conservatrice, elle venait de plus loin, elle était en même temps, elle s'est produite en même temps que des gens comme Reagan ou Thatcher dirigeaient les États-Unis ou le Royaume-Uni, et cette révolution a été accompagnée par des intellectuels, par des journalistes, par qui ont fourni l'habillage, si on peut dire, idéologique, notamment aux États-Unis dans les think tanks. Serge Halimi.
Oui, si on essaie d'analyser le basculement des idées, il faut voir qu'à partir des années 60, il y a un certain nombre de penseurs qui, dans des think tanks, qu'il s'agisse de l'American Enterprise Institute, qu'il s'agisse de Brookings ou d'autres think tanks au Royaume-Uni, décident de ne pas tellement s'intéresser au combat partisan, décident de ne pas tellement essayer d'influencer un parti, mais de transformer la structure de l'idéologie dominante pour que tous les partis, quels qu'ils soient, soient obligés de jouer sur le même terrain. Il faut voir que dans les années 70, tous les partis, quels qu'ils soient, droite et gauche, jouent sur un terrain qui est largement interventionniste. Richard Nixon, président républicain, dira « Nous sommes tous keynésiens maintenant ». 20 ans plus tard, tous les partis, quels qu'ils soient, jouent sur un terrain qui est très largement libéral. William Clinton, président démocrate, dit « L'ère de l'État fort est révolue ». Donc il y a eu une volonté délibérée et qui a été une volonté très largement gagnante de transformer les termes du débat idéologique pour que tous les partis, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, appliquent les mêmes politiques. Et c'est ce qui explique en partie la montée de l'abstention dans les pays occidentaux. C'est effectivement la prise de conscience d'un certain nombre d'électeurs que l'alternance ne change rien. Parce que, quels que soient les gens qui arrivent au pouvoir, ce sera pour appliquer la même politique. Ça se produit en France, mais ça se produit aussi à l'étranger. On le voit donc aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni à l'heure actuelle où Blair est le digne héritier de Margaret Thatcher, on le voit même dans un pays qui est moins connu mais qui à mon avis est plus emblématique comme la Nouvelle-Zélande, où c'est une coalition de gauche qui lancera une vraie vague de privatisation, qui mènera une politique économique néolibérale qui rompra avec une politique interventionniste pratiquée par un gouvernement de droite. Donc en quelque sorte les clivages politiques traditionnels ne sont plus pertinents. Le climat idéologique, le climat social a tellement changé que les partis politiques qui ont vocation à gouverner, quels qu'ils soient, sont presque contraints systématiquement d'appliquer la même politique.
C'est l'histoire d'une défaite sociale, en fait. C'est 35 ans. C'est 35 années d'histoire du chômage, c'est l'histoire d'une défaite sociale, ni plus ni moins.
Oui, d'une défaite politique aussi. Et c'est vrai que c'est l'écrasement peu à peu. On verra aussi dans les années 80 comment ça va se passer autour de la mise en place de la flexibilité. Hein. Ça va pas être facile. En 83-84, des négociations vont échouer entre le patronat et les syndicats pour mettre en place de la flexibilité. C'est extraordinaire dans le film. Maire, on a été voir Edmond Maire et Nota, et Maire nous dit, nous on était d'accord. Nous, les dirigeants de la CFDT, on était d'accord. Mais la base, elle voulait pas. La base voulait pas encore la CFDT. Ils n'avaient pas tout viré la base. Enfin, ils n'avaient pas viré la base un peu à gauche. Ils l'ont viré après au congrès de 78. Et là, effectivement, ils ont viré tous les contestataires qui faisaient aussi qu'ils refusaient de signer la flexibilité. Donc la CGT, la CFDT va refuser de signer la flexibilité. Un accord sur la flexibilité, et c'est Fabius qui l'introduit et qui la ramène et qui font avec Delbar notamment une loi sur la flexibilité, et au fond ça se fait pas comme ça, enfin ça va être dur ça va être assez long quand même. On va le voir, ça va être toutes les années 80, pour rogner le droit, les acquis des salariés, notamment qu'ils ont obtenus après-guerre et dans ce début des années 70. Ça va être un combat de 10, 15 ans avec un certain nombre de trahisons, parce que là, il faut dire ce mot-là. La CFDT a trahi, un certain nombre de politiques ont trahi, notamment au PS, mais aussi au PC. Et après, des intellectuels. Alors là, un certain nombre d'intellectuels. On n'est pas en train de voir les traits, de faire un procès, mais c'est la faiblesse, du coup, des cris qui vont aussi accompagner les batailles syndicales et les batailles du monde ouvrier.
La joie par le travail, on en est loin. Refuser le travail, comme au début des années 70, sur le mode on ne va pas perdre sa vie à la gagner, la critique du boulot, les prisonniers du boulot font pas des vieux os, tout ça c'est des vieilles lunes. Il s'agit bel et bien de bosser. On a tous été rejetés du bateau, du canot de sauvetage, et il s'agit de s'accrocher maintenant au bord. Et il y a régulièrement quelqu'un, alors quelle main, qui nous tape sur les doigts et qui nous renvoie très loin. Il y a un dessin magnifique de Sempé, qui est ce petit personnage de Sempé, et qui dit: moi j'ai toujours rêvé qu'un jour quelqu'un traverse la rue et vienne à moi et me dise: oh, heureusement que vous êtes là, sans vous il aurait manqué quelque chose à l'histoire de l'humanité. Eh bien, c'est ce refus, cette relégation collective, individuelle surtout, qui s'est produite, qui caractérise ces 35 années finalement, au cours desquelles le chômage s'est installé, les inégalités se sont installées et ont été admises, acceptées comme on accepterait un changement de climat, tout simplement, comme une épouvantable tempête qui nous aurait frappé, à laquelle il aurait fallu se soumettre. À partir des 80, la gauche arrive au pouvoir, et pour reprendre l'expression de Serge Halimi, là, la gauche essaye, elle essaye au moins pendant un an, Serge Halimi.
Oui, pendant 18 mois, jusqu'en juin 82. Et après, quand les premières difficultés économiques assez largement prévisibles se produisent, la question est de savoir comment ces difficultés économiques vont être interprétées. Et compte tenu du climat idéologique dominant et du rapport de force sociale, ces difficultés idéologiques vont être interprétées à travers une grille de lecture conservatrice, néolibérale. On s'est planté parce qu'on a appliqué des politiques trop à gauche, donc on va faire comme Thatcher, on va faire comme Reagan, on va faire comme ce qui se passe ailleurs.
Et Qui dit ça?
C'est ce que les intellectuels d'abord essaient d'expliquer, et c'est ce que les dirigeants de gauche acceptent. Il faut voir qu'en 82, il y a quand même une date très importante dans l'histoire économique et sociale, c'est l'arrêt de l'indexation des salaires sur les prix. À partir de ce moment-là, la classe ouvrière va perdre son pouvoir d'achat. Cette évolution qu'on avait déjà observée ailleurs, elle se manifeste aussi en France. Et il faut insister sur le fait que ça s'est passé effectivement sur fond de défaites ouvrières à l'issue de grèves très dures. Et pas seulement en France. Aux États-Unis, Reagan arrive au pouvoir, grève des contrôleurs aériens, il licencie, il révoque 10 500 grévistes qui n'ont plus de travail du jour au lendemain. Au Royaume-Uni, ça se produira un peu plus tard avec la grève des mineurs de 84-85, qui est une énorme défaite pour le mouvement ouvrier britannique. En France, il y aura l'ennui, il y aura pratiquement la guerre sociale dans les régions sidérurgiques. Donc il y aura un certain nombre de conflits très durs qui se traduiront tous par des échecs de la classe ouvrière qui indiqueront suffisamment aux classes dirigeantes qu'elles peuvent y aller, qu'il n'y a plus d'obstacles majeurs et qu'il est maintenant temps de procéder au grand ajustement, à la grande revanche sociale sur ces conquêtes qui avaient été concédées dans les années 60 et dans les années 70.
Selon vous, Stéphane Beau et Michel Pialoux, pourquoi la classe ouvrière à cette époque-là échoue-t-elle ?
Beaucoup de raisons, hein. Il y a des nouvelles thématiques idéologiques. On ne les a pas évoquées, mais par exemple, le thème de l'exclusion apparaît à ce moment-là, où se constitue fortement le thème de la nouvelle pauvreté. Et il y a cette idée qu'il y a une grande classe moyenne qui existe, qui se gonfle et qui inclut ceux qui étaient autrefois du côté des ouvriers. Et puis, il y a une coupure nette, il y a les exclus vis-à-vis desquels il faut mettre mettre en place de nouvelles formes de traitement ou des choses de ce genre. Et tout ça est accepté, y compris par les organisations politiques ou les syndicats, sans grande protestation, comme allant un peu de soi. Donc les nouvelles lignes de l'espace social, elles se constituent à ce moment-là. Et
il y a pour remplacer la lutte des classes. On ne veut plus entendre parler de lutte de classe. On dit il y a une classe moyenne, un ventre mou là, puisque les ouvriers sont enrichis. Bon ben voilà, on parle plus d'ouvriers, c'est ça que vous dites.
Voilà, voilà.
Et puis
voilà.
Il y a les exclus, ben c'est les perdants. C'est un peu winner loser. Il y a voilà. Les gagnants, les perdants.
Voilà. Certains ont des pudeurs effarouchées à parler de flexibilité, mais je vois pas pourquoi. La flexibilité, c'est très bien. Il faut dire que c'est de la flexibilité. Alors on tourne, on emploie d'autres formules, je sais plus lesquelles, soi-disant plus pudiques, mais personne ne s'y trompe. Il faut dire que c'est de la flexibilité.
Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. Comme un problème permanent.
Voilà, le chômage a une histoire. Merci à tous. Les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Cette émission avait été diffusée une première fois en 2001. Technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Philippe Jurado. L'équipe de la base, si j'y suis, c'est Antoine Chao, c'est Yann Chouquet, c'est Raphaël Mouterde, Pascal E, Pascal Yello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37, le mail, daniel.mermer@radiofrance.com. On se retrouve lundi à 17h pour la base, si j'y suis. Et d'ici là, eh bien, je vous laisse avec Frédéric Bonneau pour son charivari. Salut à tous.